de parler d'un homme dans la Bible qui est Barnabas. On va lire ensemble dans Actes chapitre 11 au verset 23. Actes 11, 23. Alors lorsqu'il fut arrivé, alors c'est Barnabas, puisque c'est ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche, lorsque Barnabas fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur, car c'est un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année. Ils se réunirent aux assemblées de l'Église et ils enseignèrent beaucoup à beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent appelés chrétiens. Amen. Je voudrais vous parler de Barnabas parce que dans la réflexion et dans cette pensée, je voulais partagé au départ, et j'avais comme pensée partir sur un verset qui nous dit qu'il faut rechercher le bien de la ville. Et il est précisé dans laquelle je vous ai mené en captivité, hein, car de son bonheur dépend le vôtre, notre bonheur dépend du sien. Et pour des croyants dans une ville, pour une église de Jésus implantée dans une ville, c'est primordial de rechercher le bien, le bonheur de la ville. Quand bien même on peut parfois se sentir comme pris en étau, pas libre, pas bien accepté, ça peut arriver, jugé, regardé un peu de travers. On est en travaux à Salon de Provence, pensez à nous. Vous êtes dans maintenant un beau local, mais vous avez vu ce que c'est des travaux. Et donc moi je découvre un peu ce que c'est. Et on a eu un petit souci avec le notaire qui avait pas bien pris la mesure d'une association et particulièrement cultuelle. Et pour obtenir le prêt à la banque, l'organisme de cautionnement a demandé des critères et des papiers et d'autres garanties que le notaire avait même pas imaginé. Ça 2 jours avant la signature et ça a beaucoup, beaucoup bouleversé. Et dans les échanges avec le notaire, et quand il a dû venir pour faire même un conseil d'administration avec le notaire notarié, ça a été très compliqué. Et là, il s'est ouvert, il m'a dit, mais on s'imagine des choses sur les églises, sur votre église, mais quand on vient juste, c'est un conseil d'administration, il n'a pas assisté à une réunion, à un culte, il dit, mais il y a beaucoup d'idées qui tombent. Et c'est totalement différent. Alors, en attendant, parce qu'il est arrivé 10 minutes en avance, je vais présenter l'église. Il a vu le piano, il a essayé un peu parce qu'il est les pianistes et tout ça, ça a participé. Et simplement, il a été interpellé, mais il m'a dit, on s'imagine des choses avant de voir. On est conscient que les gens s'imaginent des choses, et pas souvent les choses qu'on aimerait qu'ils s'imaginent, qu'on essaye de faire en sorte qu'ils s'imaginent. Pas souvent la vérité. Nous mettre des étiquettes. Et on peut se sentir comme en étau, comme sous contrainte. Et dans la ville dans laquelle Dieu nous a placés, comme un petit peu en captivité. De plus en plus, c'est difficile, en quelques années même, de pouvoir sortir à l'extérieur. On se pose des questions qu'on ne se posait pas auparavant. Il y a des fois des oppositions dans la mentalité, l'évolution, même dans la pensée majoritaire de la laïcité nous amène à réfléchir et à la manière dont on proclame notre foi, on témoigne, parce que la pensée des gens évolue et pas dans une bonne direction. Pourtant, on est condamné à rechercher le bien de notre ville. parce que notre bonheur dépend du sien. Et Dieu nous a placés dans cette ville. Et la Bible nous dit aussi que on est là les témoins, et à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns envers les autres. S'ils voient cet amour réellement, ils ont besoin de voir, de considérer, et donc déjà qu'il soit réel. Et là, il est parlé de Barnabas au verset 24, car Barnabas était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Il a été dans plusieurs endroits, on va un petit peu le voir rapidement, mais il est appelé là un homme de bien, qui fait du bien, qui cherche le bien, qui cherche le bien-être des autres, le bien-être de l'Église, le bien-être de la ville dans laquelle il se trouve. Et c'est un homme qui n'a jamais voulu être à la tête vue des autres, mais qui a toujours été là, fidèle. Et avoir ce qualificatif dans la Bible. C'est pas l'apôtre Paul. Il reste pas dans notre esprit comme un grand apôtre comme cela. Mais c'est écrit de lui, dans la Bible, inscrit, c'est un homme de bien. Dieu le considère comme cela. Comme un qualificatif au sujet de David, un homme selon le cœur de Dieu, il n'est pas parfait, on sait, il a chuté, il a fait des choses horribles, c'est un meurtrier, il a du sang sur les mains, mais son cœur était digne par sa capacité à se repentir, à revenir dans les voies du Seigneur. Son cœur était digne d'être qualifié et d'être écrit dans la Bible comme un homme selon le cœur de Dieu, Barnabas, un homme de bien. Que nous soyons des chrétiens qui sont connus par Dieu comme des chrétiens, des bons chrétiens, des chrétiens qui sont des hommes et des femmes de bien, qui font du bien, qui cherchent le bien, le bonheur des autres, le bien-être des autres, de la ville, qui sont prêts à s'effacer. Barnabas est nommé dans le Nouveau Testament 27 fois. Pourtant, on ne le retient pas comme ça. Moi-même, c'est rare quand j'ai prêché sur Barnabas. Mais pourtant, il est nommé, il est connu. Et il a joué un rôle important, mais un rôle de second. On pourrait dire bien souvent, je ne suis pas très foot, hein, mais c'est celui qui a fait le centre pour qu'un autre marque le but. Ça a été décisif. Il était toujours là au bon moment, et permettant peut-être à d'autres d'avoir là les honneurs. Dans la Bible, on ne voit pas quelqu'un qui a été amené à la conversion, nommément par Barnabas, ni même mentionné des guérisons miraculeuses, des délivrances. On ne le voit pas lui-même ni baptisé, ni ainsi... Il n'est pas nommé qu'il était quelqu'un qui a fait de grandes choses miraculeuses. Pourtant, il est toujours là, nommé 27 fois, toujours présent. Quelqu'un qui s'est rendu et qui était, pas par sa propre volonté, mais qui est indispensable à l'œuvre de Dieu. Dans Actes au chapitre 4, il est nommé là une première fois. Au verset 36, acte 4, 36. Il dit Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Il s'appelait Joseph, il a été surnommé Barnabas. Pourquoi ? Parce que cela, et la Bible donne la signification, il est appelé fils d'exhortation. C'est quelqu'un qui faisait du bien, qui exhortait. Et il était reconnu pour cela. un croyant qui savait prendre soin des autres. Mais il se nommait Joseph. Joseph signifie ce Dieu enlève et Dieu donne. Peut signifier ainsi les deux. Et Barnabas, dans la première mention de son nom, est quelqu'un qui, déjà au niveau matériel, avait des biens et était à l'aise. Il possédait un champ, mais il le vendit, il apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres afin que, dans cette église, personne ne manque de rien. Il a de suite pris soin et pris sur lui-même. Il n'a pas attendu que l'entraide de l'église puisse faire et se proposer, oui, je peux participer à la distribution. Non, lui, il a pris à cœur. Il s'est investi personnellement. Et il s'est laissé ainsi travailler. Son cœur s'est laissé modeler afin de répondre aux besoins. Si Dieu lui a donné, ben, il mettait à disposition. On sait que dans cette première église, c'était ce que l'Esprit avait conduit les croyants à mettre en application. Ils mettaient en commun pour que personne ne manque de rien. Il y avait vraiment ce soutien, cette entraide fraternelle. Et l'Église s'est construite dans ce contexte et selon cette organisation. Aujourd'hui, je crois qu'elle n'est pas adaptée en détail, on n'a pas à vivre en communauté comme ça, c'était important pour former, mais dans l'esprit, il faut garder cet élan du cœur, être prêt à ce que Dieu enlève ou donne, tout lui appartient, et il est important que je ne regarde pas même ce que Dieu a permis, que j'ai comme un bien propre, mais c'est prêté, et puis il faut que je le mette à profit aussi pour son œuvre, pour le bien de la ville, pour l'évangélisation, pour qu'il puisse encore sauver des âmes. Que je sois prêt à ce qu'il enlève, que mon cœur ne soit pas attaché à des richesses bassement matérielles. On est dans un monde tellement lié, même par la propriété, par la soif de posséder. On n'a qu'à regarder tous les objets dont on ne se sert pas. Je parle là en premier, et qu'on pourrait ainsi éliminer. On est pris, et des fois je me pose la question, par cette soif de posséder quelque chose. Et quand j'ai eu mes premiers enfants, j'aurais acheté les jouets que j'avais jamais eu. J'ai trouvé à 25€ en lendemain de Noël, rentrant de chez ma sœur, je me suis arrêté à grande surface, ils soldaient les jouets à moins 70%. Et il y avait un kart électrique. 25€. Et j'ai la photo de mon enfant, mon premier qui a un an, sur le petit kart électrique comme ça. Mais c'était mon rêve d'enfant. Voiture télécommandée, j'en avais jamais eu, mais c'était un rêve. Ben pareil, là, dès que j'ai trouvé aujourd'hui avec les jouets chinois, c'est accessible. Et donc, mais c'est le papa qui jouait. Mais ça, je m'en suis... Ça m'a pas gêné parce que j'ai toujours vu mon père jouer avec mes jouets le soir de Noël et bien les étreiner avec moi. Mais il y a en nous cette soif. Et il faut remettre des fois les choses à leur place et dire « Seigneur, quelle est la priorité ?» Et c'est pas parce qu'il y a eu peut-être des frustrations dans mon enfance, des choses que j'ai pas eues aujourd'hui. Je veux posséder, je veux être parce que mon frère... Et il a peut-être mieux réussi, je dois lui montrer. Et il y a des oppressions des fois comme ça dans les familles. Et un besoin de pouvoir montrer à papa qu'on a réussi. Et si quelqu'un a réussi mieux que nous, on connaît l'histoire de la voiture du voisin. Moi, je m'en suis libéré parce qu'il s'est acheté, mon voisin, là, un gros 4x4, vous savez, pick-up, comme ça. Donc, avec la Dacia, je ne pourrais pas le concurrencer. C'est fini. Alors je me suis acheté des fois on fait du VTT ensemble, je me suis acheté un beau VTT mais lui il en a encore, du coup lui peut-être il est comme ça, alors il en a pris un électrique mais c'est pas grave, c'est pas ça qui doit nous tenir. Est-ce qu'on est libéré de tout cela? Barnabas, lui a vendu son champ pour le bien de l'œuvre de Dieu. Dans Le verset 34 et 35 d'acte 4, il est dit « Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ceux qu'ils avaient vendus et le déposaient au pied des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. » Et là, il est nommé Barnabas. Donc, oui, c'était là quelque chose qui était mis en commun. Mais cet état d'esprit est celui que l'esprit a imposé. Comme je dis dans la pratique, hein, comprenez-moi bien, c'est pas une mise en pratique strictement, mais cet état d'esprit, est-ce qu'il est le mien? Est-ce que j'ai un bon état d'esprit pour l'œuvre de Dieu? Alors, Barnabas n'a pas uniquement fait du bien à partir des biens que lui avait, mais dans acte 9, on le revoit être mentionné. Et acte 9, c'est le chapitre de la conversion de Paul, qui est appelé Saul. Et au verset 26, voici que Paul, converti, se rend à Jérusalem et naturellement, lui va à la réunion, à l'église. Mais il est dit, lorsqu'il se rendit à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre aux disciples, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il soit un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. Amen. Là, Saul, converti, mais on comprend qu'à Jérusalem, reconnu, comme ce Saul de Tarse, cet homme qui respirait la menace et le meurtre contre les chrétiens, ils ont dit, bon ben, ok, il rentre, il se dit converti, mais on le connaît. N'est-ce pas là un espion, un infiltré? Il vient pour nous faire du mal et encore pour progresser dans sa soif meurtrière. Mais il y a là un homme, Barnabas, alors que tous craignaient qu'il ne fût un authentique disciple, Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres, et lui-même pris sur lui pour cautionner Paul, pour dire « Ok, il était comme cela, mais je confirme le fruit de sa repentance. Je confirme qu'une œuvre de Dieu s'est passée dans son cœur. Et je vous demande de ne pas garder dans votre esprit l'image de ce qu'il était, mais d'être prêt à le voir avec un nouveau regard, de le considérer comme un frère. C'est pas évident. Moi, des fois, je me pose la question, je suis aumônier au centre de détention de Salon de Provence, et là encore, vendredi après-midi, j'ai passé une heure et demie avec un détenu, ça fait 5 ans que je le suis. Et il me dit, mais en 2020, je sors et je vais dans un foyer, et Nicolas, il me dit, mais je vais te harceler, hein, parce que tu mourras sur ton dos, parce que moi, je veux suivre Jésus. Mais cet homme, en même temps, c'est vrai, est un homme, et là, il m'a dit qu'il avait 53 condamnations et pour des agressions sexuelles, pour beaucoup. Ça fait 20 ans, il a une cinquantaine d'années, 55 ans, mais il a passé, il m'a dit, 20 ans en prison. Il doit arriver à 60 ans. La dernière fois qu'il est sorti en 2013, il est sorti 2 mois. Une directrice de la prison, il y a quelques années, elle me dit, faites attention à lui, dès qu'il sort, il va, c'est un prédateur. Il est là. Et on a des fois, même du mal, on a besoin de garanties. Je veux dire, il ne faut pas leur jeter la pierre. C'est pas évident. Je m'imagine, je dis, j'ai déjà accueilli des personnes sortant de prison et je suis là parce qu'il faut un temps et en protégeant l'Église aussi. C'est pas facile. Mais mettez-vous à la place des frères et sœurs à Jérusalem. Voyons Saul, c'était pas n'importe qui. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui pourraient être qualifiées de respirant la menace et le meurtre. Des gens sûrement étaient là et dans leur famille. Les gens avaient été tués violemment, torturés. Peut-être par Saul de Tarse lui-même. Ou du moins à cause de ses ordres. Imaginez la confrontation, la pression, la tension et le courage de Barnabas pour le cautionner. Pour dire non, je prends sur moi. Croyez-moi. D'autres avaient des éléments concrets et dire vaut mieux jouer la sécurité. C'est plus sage. Imaginez le risque si. Vaut mieux faire le dégât pour une personne et protéger les autres. Mais Barnabas le conduisit vers les apôtres, leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur et qu'il lui avait parlé, comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Lui a cru et il a cautionné. C'est sûr, si quelqu'un arrive et un grand truand, et même, je vous dis, cet homme qui a même m'a partagé raison comment Dieu l'avait touché son cœur, moi le premier, j'en remets en question. Je dis Seigneur, parce que s'il cherche à me manipuler, c'est un grand manipulateur. Et je suis là sur la réserve et plein de doutes. Et il ne faut pas simplement croire comme ça. On a besoin d'un discernement spirituel. Mais Barnabas, lui, avait ce discernement. Et celui qui avait été rejeté par les autres, il a accepté et il a cautionné. On sait comment la suite lui a donné raison. Une troisième fois, une autre fois où on rencontre Barnabas, on a lu dans Actes au chapitre 11, c'est Antioche. Et il est dit que ceux qui avaient été dispersés, au verset 19, Actes 11, 19, ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne, allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. C'était l'église mère. Et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Voilà le verset qu'on a lu en introduction. Car c'est un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul. Alors là, un autre contexte sensible. Il y avait l'église de Jérusalem. Je suis rendu une fois à Jérusalem, c'était avec votre pasteur et nos épouses lors d'un voyage organisé pour ainsi les pasteurs. Et c'est vrai, ce qui marque entre les villes d'Israël et Jérusalem, c'est le côté religieux. Et ce n'est pas d'hier, ça n'a rien à voir. Et l'église de Jérusalem était là, formée de juifs. Et à Antioche, l'annexe, le point d'évangélisation, il est dit que ceux qui avaient été dispersés, souvent à cause des persécutions de Paul, puisque c'était suite à la persécution d'Étienne, ainsi furent dispersés. Et ceux que Saul de Tarse et son groupe voulaient empêcher, Dieu a changé le mal en bien. A fait en sorte que cette dispersion, cette persécution, a amené des croyants à prêcher la bonne nouvelle, mais ils ont uniquement prêché aux Juifs. Maintenant, certains, quelques hommes de Chypre et de Cyrène, qui eux n'étaient pas là de Jérusalem, ont prêché aux Grecs la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et un grand nombre crut et se convertirent au Seigneur. Et voici qu'il y a eu un réveil dans l'annexe, et on envoya Antioche, on a bien fait, Barnabas à Antioche, on a bien fait. Mais c'était quelque chose de sensible, parce que ça aurait été les croyants de Jérusalem, ils auraient dit, mais il faut régler cela. Il faut arrêter que des non-juifs puissent se mêler à ces réunions. Ils n'ont pas les mêmes traditions, coutumes, des pratiques totalement différentes des nôtres. Et il n'est pas bon d'avoir ainsi si proche, et dans cette communion, ça va rompre la communion. Il y a une situation sensible. Et Barnabas, venant de Jérusalem, ayant là l'autorité que l'église de Jérusalem, l'église mère, lui a confiée, aurait pu trancher et encore une fois jouer la sécurité en disant, on va éviter de faire des vagues et on va canaliser tout cela afin que il y ait une certaine harmonie qui soit conservée entre l'église de Jérusalem et d'Antioche. Et on va faire en sorte que les non-juifs ne viennent pas un peu mettre la zizanie là au milieu. Mais dans la situation qu'il trouve, Barnabas, parce qu'il s'est nommé un homme de bien, rempli d'Esprit Saint, discernant l'œuvre de Dieu, s'est réjoui de voir là ces non-juifs être baptisés, participant à la Sainte-Cène. S'est réjoui alors que ce n'était pas dans la ligne directrice de ce qu'on lui avait enseigné, mais a su réellement voir là l'œuvre de Dieu, une action ainsi miraculeuse. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ainsi Saul pour, avec lui, il allait le chercher, il l'amena à Antioche, et pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église. On retrouve encore Barnabas, là, dans une situation qui montre les caractères différents, et on connaît le caractère de Saul de Tarse et l'apôtre Paul, qui était un défricheur, un homme qui savait aussi où il allait. Et dans Actes, au chapitre 15, au verset 37, alors que Paul dit à Barnabas, retournons voir les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, il est dit que Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc, mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qu'ils avaient quitté depuis la Pamphylie et qui ne les avait point accompagnés dans leur œuvre. Ce dissentiment fut assez vif pour qu'ils se séparent l'un de l'autre, et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Paul choisit Silas et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. Il parcourut la Syrie, la Sicile, fortifiant les églises. Alors Marc, dans un précédent voyage et en Pamphylie, alors qu'il y a eu là un gros problème et que Paul s'en est tout juste sorti, c'en était trop pour le jeune Marc, et lui il est rentré chez lui, il n'a pas persévéré, et Paul, lui, avec un caractère aguerri, a jugé que cet homme qui n'avait pas été assez courageux pour continuer l'œuvre malgré la difficulté, malgré les persécutions, cet homme qui avait fait demi-tour, qu'ils avaient abandonné, ce faible finalement n'avait pas là le caractère nécessaire pour continuer et pour les accompagner, Il lui avait donné sa chance. Il était parti. Il avait choisi. Maintenant, c'en était fini. C'en était fini. Il avait là son idée sur lui. Finalement, Paul, malgré le désir de Barnabas de lui donner une seconde chance à ce jeune Marc, Paul a dû oublier ce jour-là que Barnabas avait en son temps aussi amené Paul et qu'il avait cautionné et qu'il lui avait donné là une deuxième chance malgré l'image qu'il pouvait avoir. Mais là, pour Paul, peut-être c'était différent, c'était dans l'œuvre de Dieu. Lui, auparavant, c'est sûr, c'était avant la conversion, donc on ne pouvait rien lui reprocher aujourd'hui. Il avait changé, que Marc était dans l'œuvre de Dieu, était engagé, et il avait été montré de la faiblesse. Il les avait abandonnés, donc c'en était fini. Et cette situation a provoqué, comme la Bible nous dit, un vif dissentiment, mais Barnabas, lui, n'a pas voulu abandonner. Ce jeune Marc, il a pris avec lui. Il a été prêt dans cette situation. Là, on voit son caractère de tenir ferme pour ne pas laisser ce serviteur ainsi de côté. Mais dans ce discernement de son cœur habité par de l'amour, de la bonté, du pardon, de croire en l'autre, en une seconde chance, qu'il a pu changer, que la situation n'est plus la même, qu'il a pu s'aguerrir et comprendre aussi de la situation passée, même si peut-être il n'avait pas réagi d'une manière idéale. Et là, Barnabas, ainsi l'a choisi. Et on sait, encore une fois, qu'il a eu raison, parce que Paul, par la suite, lui dit « Prends, on sait avec toi, Marc, parce qu'il m'est utile. » Et l'a reconnu, par la suite. Et donc, dans ces différents flashs que l'on voit sur Barnabas, on voit là un homme qui cherche non pas son bien, non pas d'être mis en premier, parce que dans la Bible, bien souvent, on voit Barnabas et Saul, Barnabas et Saul, jusqu'à un moment où on voit Paul et Barnabas. Finalement, celui qui l'a cautionné, celui qui l'a amené, celui qui l'a fait monter, celui en qui il a cru, Saul, ben c'est lui qui a pris la première place. L'élève a dépassé le maître. Et Barnabas, il est toujours en second. Pourtant, des dizaines de fois. Il est là, présent, s'oubliant. On oublie son nom. Mais étant fils d'exhortation, mettant toute sa vie au service des autres pour l'œuvre de Dieu, étant réellement là un disciple qui se multiplie, lui sait très bien que si c'est son nom qu'on retient, c'est lui qui fait l'œuvre, ça n'aura rien à voir aussi dans tous les gens qui sont autour de lui. Eux se mettent à œuvrer. Et donc, ils s'effacent afin d'exhorter, de reprendre, de pouvoir relever, de maintenir une harmonie, de laisser personne de côté pour le bien de l'œuvre de Dieu, afin que la splendeur de l'Évangile puisse briller, afin que dans chaque ville où une église l'a été implantée, les croyants recherchent le bien de cette ville. Il a pris sur lui-même, afin que l'harmonie puisse demeurer et que tous puissent réellement voir qu'il y a là d'authentiques disciples de Jésus par l'amour dont ils s'aiment. Amen. Voulons qu'on puisse prier ensemble et demander notre Dieu que l'on puisse non pas chercher à être quelqu'un, avoir un nom, ni dans la ville, ni là où Dieu nous a placés, ni dans l'église même. Par contre, qu'on puisse avoir ce regard bienveillant les uns vers les autres. Ce regard qui est prêt à pardonner. Que le lien de la paix puisse être prioritaire. Comme Jésus nous a enseigné d'avoir ce caractère humble, cherchant à élever l'autre, et nous-mêmes de nous abaisser. Autant que ça dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Seigneur, que tu nous donnes d'être la des Barnabas. Vous savez, il y a des fois une grande mode de formation de leader dans les églises. C'est bien, il en faut, mais dans la Bible, il n'y a pas que des leaders. Il y a des Barnabas aussi. Mais ils sont de vrais leaders. Mais ils ne cherchent pas à être en avant, à diriger, à être vus. Ils cherchent vraiment le bien et ils ont cette sensibilité, fils d'exhortation, pour chacun. Notre Dieu, nous voulons te remercier. Parce que ton Saint-Esprit nous forme, nous modèle, nous inspire. Et nous voulons te demander pardon parce que bien souvent, on n'est pas à l'écoute. Notre cœur n'est pas disposé à être assez sensible à l'écoute de ton Saint-Esprit. Combien nous voulons grandir et être, nous tous, là des Barnabas, fils d'exhortation, être prêts à perdre de nous-mêmes, afin que, Seigneur, ton œuvre puisse s'accroître. Donne-nous ce regard les uns vers les autres, afin de savoir relever, de croire, Seigneur, un frère en une sœur, de pouvoir avoir ce regard, Seigneur, spirituel, rempli d'Esprit Saint. Nous te remercions, oui, pour tous ces exemples et cet exemple dans la Bible. Bénis cette église, Seigneur, en Arles. Bénis cette ville, Seigneur. Cette église brille, rayonne. Qu'elle l'éclaire. Et nous te prions, Seigneur, oui, pour les autorités. Et nous te prions, Père, pour chaque personne en relation avec un chrétien, cette église, afin que la flamme qui brûle dans le cœur de chacun de ses croyants puisse amener des étincelles et prendre feu aussi dans le cœur de chacune de leurs connaissances. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour toutes nos églises aussi d'Ouest de Provence, qui travaillons, Seigneur, main dans la main, qui prions les unes pour les autres. Et c'est là ton œuvre, et nous savons que tu en es réjoui. Et nous voulons te rendre toute la gloire. Amen.